L'accord de Bougival, publié au journal officiel, une étape importante pour l'accord qui continue de progresser vers sa mise en œuvre concrète, affirme Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. C'est le député Nicolas Metzdorf qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a notamment été interrogé sur la politique en métropole, extrait dans ce journal. Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025. La jeune femme de 23 ans, originaire de Touhou, a été élue hier lors d'une grande soirée de gala au Méridien. Elle succède à Emma Grousset. Une vidéo diffusée par le magazine L'Incorrect montrant une conversation entre Patrick Cohen et Thomas Legrand de France Inter et des cadres du Parti Socialiste fait réagir la classe politique. Thomas Legrand y affirme notamment vouloir faire barrage à Rachida Dati au municipal à Paris. Le sport et le rugby, le coup d'envoi de la saison 2025-2026 du top 14. L'Union Bordeaux-Bègles a remporté le premier choc de la saison en s'imposant sur La Rochelle. Demain, le Stade Toulousain, le champion en titre, ira jouer à Clermont. Et puis en Calédonie, de la voile avec la No Woman No Sail qui continue aujourd'hui. Près de 80 participants engagés sur ce rendez-vous dédié à la voile pour les femmes. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. L'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet dernier à Bougival, a donc été publié au journal officiel hier. Dans une déclaration, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, explique que la première conséquence de cette publication est de permettre au Sénat d'examiner la proposition de loi organique permettant le report des élections provinciales en juin 2026. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie donnera son avis sur ce texte le 15 septembre prochain. Nous devons poursuivre sereinement les travaux institutionnels au sein du comité de rédaction et à travers des réunions bilatérales entre les différents partenaires politiques signataires de l'accord, écrit le ministre des Outre-mer, qui indique qu'il poursuivra les discussions avec le FLNKS à l'écoute de ses propositions. Manuel Valls évoque également le calendrier. Après l'adoption de la révision constitutionnelle, les Calédoniens se prononceront sur le texte de l'accord en février 2026. La Nouvelle-Calédonie doit sortir d'une impasse qui n'a que trop duré. Elle mérite la mise en œuvre d'un accord qui lui permet d'avancer sur le plan politique et institutionnel. Cette stabilité est un facteur indispensable à la reconstruction économique et sociale, écrit pour conclure Manuel Valls. On est à un moment charnière, reconnaît le député Nicolas Metzdorf quand il est interrogé sur les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie de la crise politique nationale. Il était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Le député de la première circonscription qui a annoncé qu'il voterait la confiance ne se fait aucune illusion. Lundi, le gouvernement Bayrou va tomber et il va y avoir un nouveau Premier ministre. L'important, dit-il, c'est qu'il soit nommé le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, le projet de loi organique de report des élections provinciales devrait pouvoir passer dans les prochaines semaines. Mais il rappelle qu'il y a aussi un autre scénario.
Le scénario catastrophe, c'est la dissolution. Et là, la dissolution, elle, empêche toute poursuite du calendrier de Bougival, hein, à la fois le report des élections provinciales et le projet de loi constitutionnelle qu'on a travaillé en comité de rédaction lorsque Manuel Valls est venu il y a quelques semaines maintenant. Parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans une période d'élection et que la majorité issue des urnes à l'Assemblée nationale peut être modifiée. Et donc, est-ce qu'il y aura toujours une majorité pour l'accord de Bougival? Donc on est dans un moment charnière. Alors cette fois, ce n'est pas un moment charnière calédonien. Au moment où il y a une forme de grande coalition en Nouvelle-Calédonie, une grande majorité pour soutenir l'accord de Bougival entre indépendantistes et non-indépendantistes, c'est maintenant à Paris que ça se déstabilise. On ne sait pas comment on va en sortir là.
Dans l'incertitude politique actuelle, il y a une hypothèse selon laquelle les provinciales auraient lieu en fin d'année 2025 si la loi organique n'est pas adoptée. Se posera alors avec la question du corps électoral, alors qu'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, a été déposée. Mais l'essentiel, affirme Nicolas Metzdorf, c'est que l'accord de Bougival reste un acquis.
Nous, l'important chez les non-indépendantistes, chez les loyalistes, c'est que l'esprit de l'accord de Bougival demeure. C'est-à-dire, on sait très bien que son application, c'est-à-dire la transformation de l'accord de Bougival en texte juridique à l'Assemblée nationale, au Sénat, va prendre du temps, va être compliqué en fonction du calendrier politique national. Mais là où il faut qu'on se mette d'accord avec l'ensemble des forces politiques calédoniennes, c'est qu'on défende le fait que l'accord de Bougival, lui, demeure. L'accord, il est toujours là. Il est signé, il est adopté, il est défendu par l'ensemble des forces politiques, sauf le FLNKS-CCAT, mais tous les autres partis calédoniens qui veulent que la Calédonie soit une démocratie et progresse défendent l'accord de Bougival. Donc l'idée, c'est de dire, peu importe la manière dont les choses se déroulent à Paris, il faut que l'accord de Bougival reste politique. Un acquis.
Autre risque de l'instabilité politique, les conséquences budgétaires. Alors que la Calédonie connaît la crise économique et sociale la plus importante de son histoire, on a impérativement besoin de l'argent de l'État, rappelle le député Metzdorf.
Aujourd'hui, l'État en Nouvelle-Calédonie, c'est 350 milliards d'aides quand même, hein, de francs pacifiques. Donc on est très dépendant de l'État et donc on est très dépendant du budget de l'État. Et si en France hexagonale, le budget de l'État n'est pas voté à cause de l'instabilité, on va nous dire, ben en fait, le milliard d'euros qu'on vous a prêté pour 2025, il va falloir l'étaler un petit peu aussi sur 2026. Mais ça veut dire qu'en fait, notre milliard d'euros qu'on a obtenu jusque-là, il va financer des choses qu'il ne devait pas financer, parce qu'on va devoir l'étaler sur l'année prochaine. Et puis, il y a la question de ces 240 millions d'euros, de ces 27 milliards de francs pacifiques qui
deviennent la deuxième tranche.
Ça, c'est l'urgence absolue aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incidence financière importante la France est instable. Et l'incidence financière, c'est pas seulement des grands chiffres que j'annonce, hein, des dizaines et des centaines de milliards que j'annonce comme ça, c'est le quotidien.
Et c'est l'argent de l'État qui finance tout aujourd'hui, ajoute Nicolas Metzdorf. Et sans budget de l'État, la Calédonie va souffrir. C'est, explique-t-il, ce qui justifie son vote de la confiance au gouvernement Bayrou. Il part demain en métropole, notamment pour défendre l'accord Bougival auprès de ses collègues, après avoir tenu de nombreuses réunions publiques pour informer les Calédoniens.
Il y a des questionnements, des interrogations, parfois des inquiétudes, mais il n'y a pas d'opposition frontale au texte de Bougival. Donc on considère aujourd'hui qu'il y a une grande majorité de Calédoniens qui défendent cet accord. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, on peut dire c'est fait, enfin c'est un peu présomptueux de le dire comme ça, mais en tout cas le travail de ces deux derniers mois a payé. Ouais, j'ai profité des vacances métropolitaines parlementaires pour travailler sur le terrain ici. Mais maintenant, c'est la rentrée là-bas. Et la rentrée là-bas, il faut y aller. Il faut aller en métropole pour expliquer que, attention, vous avez déjà dissous l'Assemblée nationale pendant les émeutes du 13 mai 2024. C'est pas le moment de redissoudre l'Assemblée nationale, à un moment où on doit faire valider notre accord. Parce que vraiment, si vous voulez pas aider la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez pas mieux vous y prendre.
Interrogé sur l'attitude des groupes politiques à l'Assemblée nationale, Nicolas Metzdorf affirme que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre LFI parce que ce sont des fous furieux. Il pense en revanche que l'on peut discuter avec le Rassemblement national qui veut apporter des améliorations à l'accord. Quant à l'attitude du FLNKS, le député de la première circonscription parle d'une guerre des chefs au sein du FLNKS et il affirme que Christian Théin a dit à sa délégation de signer l'accord de Bougival.
D'abord, il a dit qu'il n'était pas à Bougival. Ben, moi, je l'ai vu. Puis en plus, Christian Théin, c'est une personne qu'on peut reconnaître. Donc j'ai reconnu Christian Théin. Il était à Bougival à 5h du matin et la délégation du FLNKS signe l'accord à 6h du matin, après avoir passé la nuit à discuter. Donc moi je veux bien que Christian Théin vienne à 5h du matin voir la délégation du FLNKS pour leur dire de pas signer et que la délégation en fait se moque de Christian Théin et signe quand même. Mais le plus probable c'est que Christian Théin leur ait dit de signer et c'est les informations que l'on a. Donc je crois que le FLNKS aujourd'hui on sait plus trop ce que c'est. Depuis que le Palika et l'UPM sont sortis du FLNKS et que c'est devenu le repère des groupuscules les plus radicaux, il y a quand même une espèce de guerre des chefs là-dedans. Donc aujourd'hui c'est pas un interlocuteur pour nous qui est très solide.
Nicolas Metzdorf a aussi évoqué les élections municipales, alors que son parti, Génération NC, a réuni il y a 8 jours un séminaire sur ce thème. Il estime que c'est le bon moment pour lancer la campagne avec une consigne claire.
La consigne politique, elle est très claire. Elle est de favoriser l'unité des non-indépendantistes partout où c'est possible, au maximum.
Ça va être compliqué.
C'est compliqué, évidemment, parce que comme c'est des élections locales, il y a des ambitions locales. Et on ne peut pas empêcher la démocratie au niveau local de devoir s'exprimer. Mais mon rôle à moi de président de parti est de député. C'est de rappeler une chose de très simple. Les élections municipales, ce n'est pas que des élections municipales. Parce que les conseillers municipaux et les maires, c'est les électeurs des sénateurs. Et donc, il y a un moment donné, les sénateurs, c'est 50% des parlementaires calédoniens. Et on voit à quel point le Parlement national est important pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, il ne faut pas envoyer des représentants qui soient des indépendantistes ou proches des indépendantistes.
Une interview du député Nicolas Metzdorf à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera rediffusée ce soir en intégralité. Ce sera juste après notre édition de 17h45.
Emma Grousset a remis sa couronne et son écharpe de Miss à Juliette Collet qui a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2025. C'était hier soir au Méridien. L'ambiance était au rendez-vous pour cette soirée de gala où les candidates ont défilé dans différentes tenues créées autour du thème naturel. Soirée de gala à laquelle vous avez assisté, Kalinda Boicou.
Ils étaient nombreux hier dans le public à soutenir leur candidate parmi les 8 prétendantes à la couronne d'Emma Grousset. Une soirée de gala qui avait pour thème naturel. Ces jeunes femmes de 17 à 33 ans avaient défilé dans différentes tenues. Pour Juliette Collet, c'était une soirée chargée d'émotions.
Beaucoup trop d'émotions. C'est une réelle fierté d'être sacrée Miss Nouvelle-Calédonie auprès de deux jolies jeunes femmes. Et puis, je suis très heureuse d'avoir vécu cette aventure. Je suis très contente des rencontres que j'ai faites, de toutes les personnes qui ont travaillé autour de tout ce concours, des filles qui étaient avec moi sur scène. Et puis, c'est une aventure que je n'aurais jamais pensé vivre. Et finalement, je suis très heureuse de l'avoir vécu. Ma maman était présente et c'était une vraie fierté. Parce que ma maman est de tout haut, de province nord, et tous les membres de ma famille n'ont pas pu être présents ce soir, mais ma maman oui, et c'était vraiment très émouvant, je pense que vous avez pu le voir.
Les dauphines de Juliette Collet sont Lila Grace Prévost et sa fille Hélène Quignoux. Juliette Collet qui s'est vue remettre la couronne de Miss Nouvelle-Calédonie par Emma Grousset, qui a été l'ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans.
Je suis vraiment très heureuse que Juliette soit la Miss Nouvelle-Calédonie 2025 et je lui souhaite que du bonheur de rester elle-même, surtout à 100%, parce que c'est y a que comme ça qu'elle pourra pas regretter toute l'aventure qu'elle a à vivre par la suite.
Une élection qui s'est déroulée en présence de la Miss France 2023, ancienne Miss Guadeloupe, Indira Ampiou.
C'est une très belle élection. C'est vrai que j'ai eu l'habitude de regarder pratiquement toutes les élections régionales et j'ai beaucoup aimé le fait que la culture soit vraiment mise en avant. On a eu des tableaux qui étaient incroyables, des candidates qui étaient à fond, se sont amusées. Et nous, c'est ce qu'on a envie de voir sur scène, des filles qui s'amusent, qui sont contentes d'être ici, qui rayonnent tout simplement. Et en tout cas, les filles ont brillé et voilà, je souhaite à Juliette de briller tout au long de cette année de Miss Nouvelle-Calédonie.
Pour Stella Levenhao, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, cette soirée de gala était une réussite. Le public était au rendez-vous.
Je suis enchantée de voir que le public est encore très attaché à Miss Nouvelle-Calédonie. Merci au public aussi. Merci d'avoir soutenu autant les candidates. Et on ne peut qu'apprécier. On l'appréciera avec beaucoup de silence. On a eu vraiment une très belle promotion. Et elles ont été, mais waouh, sur scène. Et les artistes aussi. Et donc je suis sans voix face à la qualité et la motivation. Il y a une telle passion sur cette élection. C'est important. C'est aussi notre mission de valoriser la Nouvelle-Calédonie avec une ambassadrice.
Juliette Collet, la Miss Nouvelle-Calédonie 2025, s'envolera début novembre et représentera donc la Nouvelle-Calédonie à l'élection de Miss France 2026 en décembre prochain.
À Nouméa, un clin d'œil à la Bretagne ce matin. C'était sur l'Anse-Vette, à une quinzaine de personnes s'est réunie pour participer à un concours national afin d'afficher la présence bretonne en Calédonie. Si le temps n'était pas au beau fixe, quelques nostalgiques de la Bretagne et du Pays Braise ont tout de même répondu présent. Les explications de Marthe Tillon, la présidente de l'Association des Bretons de Nouvelle-Calédonie.
On a décidé de faire cet événement suite à une publication du journal Ouest France. C'était « Avez-vous vu le Gwenadu ?» L'idée, c'était donc de faire un Gwenadu. Gwenadu, ça veut dire noir et blanc en breton, ça veut dire le drapeau breton. Donc en vrai, photographié par un drone, et on va envoyer la photo, on va voir si on gagne ou pas, parce que c'est un concours.
Ça a été un plaisir de se dire « Allez, on va suivre ».
Bah oui, c'était cool. On s'est dit, tiens, allez, faisons ça.
Et notez que l'Association des Bretons de Nouvelle-Calédonie organisera par ailleurs un fest-noz. Ce sera jeudi soir au bout du monde, à Nouméa. Et puis, bilan positif pour la 11e édition de la fête agricole de Pointe-Boute. Le soleil et l'ambiance étaient au rendez-vous hier sur l'ancien hippodrome de la commune. Les visiteurs, comme les exposants présents, ont pu profiter des produits locaux, des animations proposées, notamment les jeux équestres et le rodéo. Écoutez Katia Amoglia, la présidente du comité organisateur.
On peut faire que un bilan positif. On a eu à peu près entre 2500 et 3000 visiteurs. On a eu énormément d'inscriptions pour les jeux équestres et on a fini par un très beau rodéo qui a donné beaucoup de spectacles. Je pense que oui, l'objectif est atteint. On voulait avoir le maximum de visiteurs et on pensait pas avoir autant de cavaliers, mais on a vraiment eu une très belle journée sans pluie en plus. La pluie est vraiment arrivée à la fin. Et je pense que c'est une réussite pour nous. Et je tenais vraiment à remercier toute mon équipe parce que ça a été dur toute la journée, mais tout le monde a été là et tout le monde a été présent.
Et Katia Moglia a des propos recueillis par Kalinda Boicou. Il est 12h14. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. L'actualité en métropole et dans le monde.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
L'actualité en métropole, c'est une vidéo qui fait beaucoup parler depuis quelques heures. Un enregistrement diffusé par le magazine L'Incorrect, enregistrement qui montre une conversation entre les éditorialistes du service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen, et deux cadres du Parti Socialiste. On comprend clairement qu'ils souhaitent faire barrage à Rachida Dati pour les prochaines municipales à Paris et faire gagner la gauche à la présidentielle de 2027. Une séquence qui a enflammé les réseaux sociaux avant que la classe politique ne s'en empare et réagisse à son tour. Les Républicains, le parti de Rachida Dati, écrivent dans un communiqué que si un journaliste du service public affichait une telle proximité avec la droite, il serait cloué au pilori immédiatement. Fin de citation. Laurent Wauquiez, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a évoqué le sujet lors de son discours alors que le parti est réuni pour sa rentrée politique en région parisienne.
Les autorités administratives, toutes ces autorités qui pullulent, qui coûtent une fortune au pays, qui ne servent à rien et qui font toutes ces normes qui aujourd'hui corsettent la volonté des Français. Qu'est-ce qu'on attend pour les supprimer ? Et je cite au premier plan l'ARCOM, dont vous me permettrez quand même d'interroger le système aujourd'hui médiatique qui aboutit à protéger M. Cohen et à condamner Cyril Hanouna. Nous ne voulons plus de cela.
Indignation également du côté du Rassemblement national. La députée du Var, Laure Lavalette, s'est exprimée hier soir sur CNews.
On a assisté hier à une véritable collusion de deux journalistes avec des gens du Parti Socialiste pour faire la peau d'une candidate. Mais où sommes-nous ? C'est extrêmement grave. Je vous rappelle que ces gens-là sont payés par nos impôts, sont payés par les électeurs de Rachida Dati et personne ne mérite ça.
Des réactions également à l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon dénonce une vidéo consternante dans laquelle deux journalistes complotent pour valoriser un axe Ruffin-Canfin-Glucksmann. De son côté, le député Horizon Pierre-Henri s'interroge sur le rôle des deux journalistes du service public censés promouvoir la pluralité des opinions.
On voit bien qu'il y a une volonté manifeste de s'emparer de cette campagne et d'appuyer leurs propos et de convaincre une certaine partie de l'opinion. Et donc là, on n'est pas du tout dans le rôle du service public.
Et le PS, quant à lui, tente d'éteindre la polémique. Le PS, qui, pour ligne de défense, accuse le média L'Incorrect, qui a diffusé les vidéos, d'avoir pour seul but d'entretenir une lecture complotiste du Monde. Thomas Legrand, lui, a été suspendu à titre conservatoire par France Inter. On reparle du narcotrafiquant Mohamed Amra. Le parquet de Paris annonce la remise en liberté de l'un de ses complices présumés, un homme âgé de 23 ans, accusé d'avoir organisé la fuite d'Amra vers la Roumanie. Les explications de Laura Legault pour Europe 1.
Après 4 mois de détention provisoire, le complice présumé de Mohamed Amra a été remis hier en liberté sous contrôle judiciaire. L'homme est un Albanais de 23 ans, domicilié à Rouen. La justice le soupçonne d'avoir aidé Mohamed Amra dans sa fuite. C'est lui qui aurait escorté la voiture du narcotrafiquant en Europe et aurait trouvé un logement en Roumanie. Le parquet de Paris justifie cette remise en liberté. Le délai légal maximum de détention provisoire a été atteint. Impossible, selon le parquet, de prolonger sa détention faute d'antécédents judiciaires suffisants. Une décision qui indigne le syndicat FO Justice. Jessie Zagari, déléguée nationale.
Pour FO Justice, nous sommes vraiment choqués d'un complice présumé dans un crime où il y a eu des agents qui ont été décédés et d'autres gravement blessés. Malgré cela, au bout de quelques mois, on le relâche sous contrôle judiciaire avec juste interdiction de quitter l'Île-de-France.
Cette remise en liberté questionne, d'autant que la nouvelle loi narcotrafic votée en juin durcit les conditions de détention provisoire. L'homme aurait pu rester derrière les barreaux plus longtemps, mais sa mise en examen a eu lieu avant le vote de la loi. Et cette dernière n'est pas rétroactive.
Laura Logo du service police-justice d'Europe 1. En bref, à l'étranger, au Proche-Orient, Israël a détruit une tour dans le sud-ouest de la ville de Gaza. L'armée évoque une tour utilisée par les islamistes du Hamas. Tzahal avait appelé au préalable les habitants de la zone bombardée à évacuer vers une zone déclarée humanitaire. Et puis aux États-Unis, Donald Trump menace une nouvelle fois la ville de Chicago d'envoyer des troupes fédérales pour s'attaquer à la criminalité. Chicago va comprendre pourquoi le ministère de la Défense s'appelle désormais le ministère de la Guerre, a déclaré le président américain sur son réseau social. L'opposition démocrate a dénoncé de son côté des paroles dignes d'un dictateur en puissance. Dans l'actualité religieuse, les canonisations ce soir pour nous de deux jeunes Italiens. Elles auront lieu à Rome en présence de centaines de milliers de fidèles, dont de nombreux Français, particulièrement inspirés par la vie de Pier Giorgio Frassati et surtout de Carlo Acutis, mort en 2006 à l'âge de 15 ans. Fait unique dans l'histoire, la mère de Carlo Acutis sera présente pour la canonisation de son fils. Reportage de Frédéric Michel d'Europe 1.
Je vais pouvoir assister à la canonisation d'un saint qu'on aime beaucoup. Forcément, je suis très content.
Je le considère comme un grand frère.
Joseph et Carole font partie d'un groupe de 200 pèlerins venus de toute la France. Comme de nombreux jeunes chrétiens, ces deux frères de 15 et 16 ans se sentent proches de Carlo Acutis et heureux d'être à Rome aujourd'hui.
Souvent, les saints ne sont pas forcément des jeunes. C'est sympa d'avoir un jeune saint qui est du millénaire, quoi. Il a connu les ordinateurs, il connaissait la Coupe du Monde de football. Et du coup, on peut le sentir plus proche.
C'est quelqu'un de joyeux, quelqu'un un peu comme tout le monde, qui vivait normalement. Tout en étant simple, il était bon. Oui, un exemple à suivre pour tout le monde.
Mort en 2006 d'une leucémie foudroyante à l'âge de 15 ans, Carlo Acutis est le premier saint du nouveau millénaire. Le frère Renaud est scandé administrateur des pieux établissements de la France à Rome.
Ce jeune Carlo Acutis touche énormément de jeunes Français qui se sentent très proches de sa spiritualité incarnée, ouverte aux nouvelles technologies, à Internet, le geek du bon Dieu. Alors il était très très attiré par l'Eucharistie, Dieu en corps et en sang, et il a fait toute une recherche qu'il a publiée sur Internet.
Des podcasts et messages qui lui ont valu le surnom de cyber.
Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique. En Australie, plusieurs plages de Sydney sont toujours fermées, et ce jusqu'à nouvel ordre, à la suite d'une attaque mortelle de requins qui s'est déroulée hier. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Le drame s'est déroulé hier vers 11h du matin au large de Dee Why, l'une des plages les plus populaires du nord de Sydney. Alors qu'il surfait à environ 100 mètres du bord de l'eau, un homme dont l'identité n'était pas encore révélée hier soir a été attaqué par un large requin. Plusieurs surfeurs qui avaient été les témoins du drame se sont immédiatement portés au secours de la victime et l'ont ramené à terre, de même que deux morceaux de planche dont l'analyse pourra aider les experts des services maritimes à identifier le type de requin à l'origine de cette attaque. Le malheureux est toutefois décédé sur place avant l'arrivée des secours. Alors que les recherches maritimes et aériennes du prédateur se poursuivent, toutes les plages situées entre Manly et Narrabeen ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Midi 23 minutes, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20, tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS, ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ces restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément.
Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là! Encore plus belles, encore plus goûteuses, avec un parfum unique et une qualité exceptionnelle. Ce week-end, on se donne tous rendez-vous aux fraisiers de Païta. Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là!
Les fraisiers de Païta, 3 points de vente. Au 6e kilomètre, aux fraisiers de Païta et en face de la pharmacie de Sainte-Marie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabot.
Eh ben on va commencer avec le rugby, un nouveau championnat de France de top 14 qui a débuté ce week-end. Lyon Olympique Universitaire a pris provisoirement les commandes du classement général, Michael Geneschi.
Les Lyonnais qui s'imposent largement face au Racing 92 et un ancien de leurs pensionnaires, Romain Taufifénois, capitaine des Racing Men pour ses retrouvailles avec l'ancien club. Succès de Lyon donc sur un score sans appel, 32-7. Le stade français de Tagnivilly a lui dominé le promu Montauban sur le score de 47-24 pour s'installer, toujours provisoirement, à la deuxième place du classement. Autre résultat, le RC Toulon et sa nouvelle recrue, le Calédonien Patrick Tuifua, a battu l'équipe de Montpellier de Donovan Taufifénois et Christopher Tolofua. L'aviron bayonnais d'Emeric Setiano a lui été l'emporté sur le terrain de Perpignan 26-19. De son côté, la section paloise, bien emmenée par l'ancien All Black, Luke Whitelock, a décroché un succès précieux sur la pelouse de Castres 17-15. Et enfin, dans le premier choc du week-end, l'Union Bordeaux-Bègles de Sipili Falatea a triomphé du Stade Rochelais 23-18, même si l'UBB déplore désormais l'absence de Yoram Moefana, le fils du vice-président du club de Dimbéa, touché à l'épaule en préparation. Il sera absent au moins 3 mois. La dernière affiche, ce sera demain. L'AS Clermont de Selevasio Tolofua affrontera le Stade Toulousain de Rodrigue Netti, toujours privé en revanche d'un autre Calédonien, Peato Mauvaka, indisponible depuis le mois d'avril en raison d'une rupture des ligaments croisés.
Du rugby, encore le tournoi des nations de l'hémisphère sud. La troisième journée se dispute hier en Australie et Nouvelle-Zélande.
Et on retiendra surtout la victoire des All Blacks sur les Springboks, champions du monde en titre. Dans un choc au sommet, les Néo-Zélandais se sont imposés à domicile face aux Sud-Africains 24-17. Dans l'autre rencontre du jour, les Wallabies australiens ont dominé les Pumas argentins 28-24. Au classement, la Nouvelle-Zélande assure sa première place. Désormais, seules 2 équipes ont remporté 2 matchs, les All Blacks et les Wallabies.
Un mot de tennis, Mikael et Aryna Sabalenka qui a conservé sa couronne à l'US Open.
La Bélarusse n'a pas tremblé face à l'Amérique. Amanda Anisimova, une victoire nette en 2-7 face à une victoire nette de la numéro 1 mondiale, donc en 2-7, 6-3, 7-6. Elle s'impose sur les courts new-yorkais et ajoute au passage un 4e titre en Grand Chelem, à son premier seulement en 2025, après avoir été battue dans 2 finales en majeur cette saison, à Melbourne et à Roland-Garros. Ce sacre lui permet surtout de conforter sa première place au classement WTA, plus de 3000 points d'avance sur la polonaise Iga Świątek. Dans le tableau, messieurs, demain matin, un choc au sommet, l'espagnol Carlos Alcaraz contre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec le Grand Prix d'Italie, c'est Max Verstappen qui a signé la pole position à Monza. Le Néerlandais sur Red Bull a réussi à devancer les McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Du côté des Ferrari qui courent, rappelons-le, à domicile, Charles Leclerc a signé le 4e temps, Lewis Hamilton le 5e. Côté français, c'est pas brillant, hein. Esteban Ocon partira de la 15e position, Pierre Gasly de la 19e. Juste avant, Isaac Hadjar qui a signé le 16e chrono, mais à cause d'une pénalité pour avoir changé plusieurs éléments de sa voiture s'élancera depuis la dernière place sur la grille. Isaac Hadjar qui aura bu le calice jusqu'à l'Ali, puisqu'en plus de ses problèmes mécaniques, d'avoir commis une erreur en qualif, bah figurez-vous que le Français a été gêné par Carlos Sainz. Ah bah oui, il y a des week-ends comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas.
Carlos, je sais pas ce qu'il faisait. Honnêtement, il m'a rendu ouf pendant tout mon tour de préparation et tout ça pour au final me laisser passer dans mon tour et il a pas su bien me laisser passer, bref, c'était n'importe quoi. Et après, par contre, je fais une erreur dans mon tour et c'est ça qui me coûte le passage facile en Q2. Donc, bon, on s'en moque un peu, de toute façon, on part dernier demain, donc c'est pas grave.
Le Grand Prix d'Italie de Formule 1 avec Carlos Sainz qui fait n'importe quoi, ce sera ce soir dès minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques encore avec le Grand Prix de Catalogne, c'est de la MotoGP, Marc Marquez qui a remporté encore une fois la course sprint, juste devant le français Fabio Quartararo. L'autre pilote tricolore, Johan Zarco, s'est classé 7e lors des qualifications. C'est le frère cadet des Marquez, Alex, qui a signé la pole position devant Fabio Quartararo, qui s'élancera donc de la première ligne sur la grille de départ aux côtés de Marc Marquez, le 3e. Johan Zarco s'élancera lui pour la course principale en 7e place. Grand Prix à suivre ce soir à partir de 23h. On enlève le moteur, on garde deux roues, ça s'appelle du cyclisme. 14e étape du Tour d'Espagne. La victoire est revenue à Marc Soler en solitaire devant Jonas Vingegaard et Joao Almeida. Jonas Vingegaard qui conserve son maillot rouge de leader de la Vuelta avec 48 secondes d'avance sur Joao Almeida. L'actualité sportive en Calédonie, Michael Juneski, dans le Lagon, c'est le dernier jour pour la No Woman No Sail.
L'épreuve de voile 100% féminine, au large de Nouméa, des régates en catamaran et J70 sur deux jours. Les dernières épreuves se disputaient ce matin, c'est l'équipage des Brigantines qui a terminé en tête du classement avec Noah Ancian, Maïlys Berthollet, Clémence Chausse, Camille Després et Maïlys Monin. Hier, on retrouvait à la deuxième place les Tari en tulle, quatuor composé d'Alizé Angibault, Charlotte Picou, Shirley Gervolino et Chloé Roux. Et puis les jeunes de la SRC School Race Cool, représentant le club de la Société des Régates Calédoniennes, qui était 3e équipage avec des jeunes navigatrices de tout juste 10 ans.
On est 3e sur le classement général. Il y avait du vent et on se faisait mouiller en catamaran.
C'était bien, il y avait un peu de vent, du coup c'était un peu dur, mais ça allait.
Le plus dur à gérer, c'était surtout, sur le catamaran, parce que le J, ça va. On y arrive.
Bah écoute, elles étaient super contentes, ce qu'elles nous ont dit, et après elles étaient super actives. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais c'est cool parce que je pense qu'elles elles ont quand même appris beaucoup de choses. Elles ont l'envie, elles ont la niaque comme on dit, et ça c'est le plus important.
C'est une chance pour nous de pouvoir naviguer à bord avec elles, parce qu'en général elles naviguent de leur côté, nous on est à l'extérieur, et là on est avec elles présentes sur le bateau, et on peut voir tout ce qu'il y a à voir sur le plan d'eau, l'intelligence de la course, du vent, et avec elles, elles sont là, au contact.
Et je rappelle que 80 participantes étaient en lice pour cette 14e édition de la No Woman No Sail.
Allez, on termine avec du football, Mickaël, et on connaîtra ce soir les affiches des demi-finales de la Super League.
Ouais, en ce moment même, sur la pelouse du stade Noumadele, Tiga Sport retrouve l'Escogné pour le dernier quart de finale. On rappellera le succès de Yingen Sport sur Magenta sur le score de 3-2. C'est la dure loi des playoffs, en défaveur de Magenta qui avait pourtant terminé en tête de son groupe au championnat. Yingen qui l'emporte 3-2, tout comme l'AS Gaïcha face à l'AS Lossi. À l'issue de la prolongation, le CA Saint-Louis, grâce au barrage des derniers de poule, avait déjà pu se hisser en demi-finale après sa victoire sur Horizon Pato aux tirs au but.
Il est midi et 32 minutes, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. On se retrouve à 13h pour d'autres infos. Bel après-midi, bon dimanche.